les performances du métro sur pneus se révèlent nettement supérieures à celles du métro classique.
Madame, monsieur, bonsoir. La première classe dans le métro, trois bonnes raisons pour la supprimer et la classer au rayon souvenirs.
Cette mise en service de Météor est un véritable événement. C'est la première ligne de métro créée depuis 1935.
Train de vie sur RCN, Martin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Train de vie. Quand on pense métro, on pense peut-être à son carrelage mythique, à l'entrée d'une station, mais aussi à ses couloirs recouverts de publicité. En effet, il y en a aujourd'hui plus de 60 000 emplacements dédiés à la pub dans le métro, ce qui vaut bien une petite rétrospective sur cet élément incontournable du métro parisien. Le 19 juillet 1900, le jour de l'ouverture de la première ligne du métro, les Parisiens découvrent un métro presque sans publicité sur les murs, et quelques publicités sont collées directement sur les voûtes des quais, sans taille définie. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir de toutes petites affiches de la taille d'une feuille de papier à des affiches de plus de 2 mètres de large. Il n'y avait pas vraiment de règles sur l'affichage de la publicité dans le métro parisien. Aujourd'hui, certains emplacements de la publicité ont disparu. Par exemple, la publicité existait sur les tickets de métro à partir de 1903, mais ont disparu dans les années 50. Plusieurs marques avaient ainsi fait leur publicité sur le dos des tickets, comme la marque Catox pour la lessive ou encore les dépôts Nicolas et Kiravi pour le vin. Le support devait être trop petit et pas assez marquant. Un autre support publicitaire qui a disparu se situait en dessous des quais, apparu assez rapidement dans les années 1900, les publicités longeaient les bords du quai. Ce support a aussi disparu, remplacé par des dizaines de câbles longeant les quais dans la deuxième partie du XXe siècle. Lorsque le Nord-Sud, une compagnie dont on a déjà parlé, a inauguré en 1911 ses premières stations, le format 4x3 apparaît. Des affiches de 4 mètres par 3 permettent d'être vues de l'autre côté du quai en attendant le métro. Les rames de métro à l'époque sont aussi couvertes de pubs. Dès 1908, les rames sont recouvertes de publicité sur les portes-bagages, sur les plans des lignes, sur les parois extérieures. Aujourd'hui, sur les rames les plus anciennes encore en circulation datant des années 60, on voit encore de temps en temps quelques endroits où la publicité peut apparaître, mais les rames les plus récentes n'en ont même plus. Il reste quelques annonces d'événements organisés éventuellement par la RATP en tout petit. Cette tendance est également valable sur les quais. Tout d'abord, l'automatisation des lignes a un impact. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que mettre des trains sans conducteur à un rapport? Mais une automatisation demande généralement l'installation de portes palières, c'est-à-dire des portes vitrées qui séparent les voies des quais pour prévenir d'éventuelles chutes sur les voies. Et ces portes cachent la visibilité sur les quais d'en face, alors les publicités affichées en grand format 4 mètres par 3 n'ont plus d'intérêt, car on ne les voit plus. Les cadres publicitaires de cette taille sont donc en train de disparaître en fonction de l'automatisation du réseau, et s'il y a bien un endroit où la publicité est encore bien présente, c'est dans les couloirs des stations. La majorité s'y trouve parce qu'il y a beaucoup de passages, mais également beaucoup de place dans les longs couloirs pour les afficher. En décembre 2008, apparaît le premier écran publicitaire numérique à la station Charles de Gaulle Étoile. Il en existe aujourd'hui plus de 900 sur le réseau RATP. Ces écrans permettent de diffuser une plus grande diversité des publicités à certains endroits et moments précis selon les intérêts des marques. Mais ces écrans posent un autre problème, ils consomment au bout de 10 ans l'équivalent de la consommation électrique de 4 maisons. La publicité dans le métro parisien rapporte également énormément à la RATP, avec 150 millions d'euros par an. Ces recettes sont, selon la RATP, directement utilisées pour la modernisation des infrastructures du réseau. Mais quel est l'avenir de la publicité? Avec la construction des nouvelles lignes entièrement automatiques, la place de la publicité doit être encore définie. On peut deviner la tendance de réduire la taille des emplacements. Un seul emplacement pourrait diffuser plusieurs publicités. On peut d'ores et déjà imaginer que des écrans de petite taille à des endroits stratégiques comme sur les portes palières, car les gens attendront leur métro, les yeux pourront se poser sur la pub. Pour finir, je voulais revenir sur une initiative prise dans le métro londonien pour dénoncer les trop nombreuses publicités. Fin 2016, une association réussit à récolter l'équivalent de près de 27 000 euros pour se payer l'affichage publicitaire dans une station de métro londonienne pour 2 semaines. Et ils ont donc remplacé les publicités classiques par des affiches où l'on voit des têtes de chats qui sont en recherche de propriétaires. Alors en plus de dénoncer l'omniprésence de la pub, ça a permis d'égayer les couleurs du métro londonien, mais aussi de faire adopter un grand nombre de chats. Ce type d'initiative citoyenne risque de prendre de l'ampleur à l'image des pétitions et des mouvements associatifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Train de vie s'achève. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler des différents types du métro qui ont roulé à Paris, des fameuses Pratt Thompson aux rames du futur. Cette chronique ainsi que les précédentes sont disponibles en podcast sur rcn-radio.org. Et moi, je vous dis à bientôt dans le métro.